Ils m'aiment, il est fidèle, une nuit de temps en temps. que ça fait peur. Même moi, c'est sans remords que pour lui je pleure.
Diffusion d'une émission Principe Actif. Une rediff, quoi.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous, ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International pour la seconde émission du mois de mai, puisque le mois de mai touche bientôt à sa fin. Et donc, pour animer l'émission ce soir, autour des micros, il y a Edith.
Bonsoir.
Et il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Alors, là, on est dans le studio. Pour ne rien vous cacher, ça ne vous surprendra pas, il fait très très chaud dans le studio. Surtout que le studio de la radio, si vous le connaissez, il est juste sous les toits. Et donc, effectivement, il fait très chaud parce qu'on est, et c'est aberrant pour un mois de mai, tous les gens de la météo le disent, on est en période de canicule. On est passé en 10 jours d'un temps anormalement froid à un temps maintenant très anormalement chaud. Donc voilà, et après il y a encore des gens qui se posent des questions sur la réalité du changement climatique. Cela, je sais pas quelles preuves dont ils ont besoin pour se rendre compte que le changement climatique, eh ben, on le vit de plus en plus. Mais enfin bon, après, mystère. Donc voilà, alors moi ça m'a rappelé, mais je vais passer la parole rapidement à Edith, mais ça m'a rappelé ce que j'ai entendu il y a 2 ou 3 jours sur une autre radio, un céréalier qui disait que cette histoire de canicule là qui tombe maintenant, un céréalier dans l'ouest de la France, c'était très 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 une très mauvaise nouvelle, parce que le blé, qui est un de nos principaux aliments, ça, on le sait tous, est en train de former ses épis en ce moment, et que si le temps est trop sec et trop chaud, eh ben il va faire des épis très petits et des grains très petits et d'une qualité très médiocre. Voilà. Donc le changement climatique, c'est aussi ça, c'est des atteintes à venir à notre propre alimentation, et ça aussi, il faut y penser. Voilà. Donc je crois qu'Edith, tu avais autre information par rapport au changement
climatique. Rebondir un petit peu par rapport à tout ce qui est écologie. Alors juste, je vais faire comme Didier, juste une parenthèse. Vous savez qu'il y a tout de suite le festival Anthropocène.
Tout à fait.
Et il y a beaucoup de réflexions sur justement l'alimentation.
On va en reparler d'ailleurs.
Voilà, l'alimentation et les évolutions entre au moment où les plantes ont été domestiquées, où elles étaient sauvages. Et donc le blé qu'on cultive, il n'est pas habitué à toutes ces changements de temps complètement imprévisibles. Et c'est vrai que faut aussi peut-être penser à adapter les semences, peut-être.
Oui. Alors. Oui, et puis agir sur le réchauffement climatique, parce que ça ne va pas aller en s'arrangeant, c'est
alors,
sûr.
Eh bien écoutez, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 20 mai dernier une résolution sur la responsabilité climatique des États avec une écrasante majorité. Alors oui, on va dire comme certains, les Nations unies qui les écoutent encore. Mais c'est quand même aussi une majorité des États. Et la, cette résolution, elle émane des États pour qui le changement climatique, c'est absolument, c'est aujourd'hui. Par exemple, je vais vous dire Vanuatu, on va y arriver. Pourquoi je veux dire roi? Mais non, c'est Vanuatu qui a alerté à maintes reprises sur le fait que son territoire pouvait disparaître en raison de l'élévation du niveau de la mer. Il a été à l'origine des efforts pour obtenir cette résolution. Cette nation insulaire du Pacifique avait déjà mené l'initiative diplomatique qui aboutit à l'avis consultatif de 2025. Alors, 2025, c'est la Cour internationale de justice qui a dit qu'il fallait que les États se bougent un peu par rapport au changement climatique. Donc là, on est sur un deuxième niveau. Donc les États qui sont mis avec le Vanuatu pour pouvoir avoir cette résolution, alors je vous les donne quand même parce que la Barbade, le Burkina Faso, la Colombie, les États fédérés de Micronésie, les îles Marshall, la Jamaïque, le Kenya, les Palaos, le Pays-Bas, les Philippines, Singapour, la Sierra Leone. Donc c'est pas aussi les changements climatiques, c'est quelque chose qui va être pour tout le monde à un niveau plus rapide pour certains, voire même dans le présent. Donc que le fait qu'il y ait cette nouvelle résolution, c'est quand même important et ça peut mettre en jeu aussi montrer un chemin que doivent emprunter les gouvernements pour défendre la justice climatique et pourrait contribuer à façonner le concept de responsabilité climatique mondiale dans les prochaines années. Surtout au moment où les choix politiques et autoritaires de certains dirigeants mondiaux, tels que la suppression de la protection environnementale ou le retrait de mesures visant à abandonner les combustibles fossiles, ont mis à mal les progrès internationaux, alors même que nous avons besoin de renforcer l'action climatique. Alors, je vous donne pas les noms des gouvernements qui ont pris ces mesures-là. Bon, on va penser aux États-Unis, mais il y a aussi en Europe, hein, il y a vraiment un gros recul sur plein de mesures, et on se dit, ben, dans ce cas-là, allez, le pétrole, pourquoi pas encore un coup. Bon, là, il est un peu coincé dans le détroit.
Tu parles du gouvernement américain, c'est ça?
Le gouvernement américain, mais aussi l'Europe. Il ne faut pas se cacher derrière, les positions de Trump. Donc, voilà ce qui se passe. Là, c'est un point positif, même s'il va falloir que les États se l'approprient et que ça bouge un peu. Donc, on revient aux États-Unis. Merci Didier de m'en parler. Aux États-Unis, c'est l'essor du lithium qui menace le droit des peuples autochtones. Alors, le lithium, vous voyez bien un peu ce que ça peut être, cette espèce de métaux rare que tout le monde s'arrache, qui est en forte demande, en forte hausse du fait de la transition énergétique et de l'expansion rapide des centres de données liés à l'intelligence artificielle. Le Nevada est devenu le pôle d'extraction crucial car il renferme environ 85% des réserves de lithium connues aux États-Unis. Alors, il y a un rapport d'Amnesty qui vient de sortir qui examine trois grands projets d'extraction de lithium dans le Nevada. Un qui est déjà en construction et deux autres qui sont encore en projet. Et le rapport note aussi la problématique de la non-écoute des peuples autochtones qui sont sur ces territoires-là. Alors aux États-Unis, c'est pas compliqué en fin de compte. Il y a des terrains qui sont, on les considère comme publics, mais c'est une désignation qui est héritée d'une longue histoire de spoliation des terres par le colonialisme de population, donc l'arrivée des Américains sur les terres des autochtones. Et c'est sur ça que s'appuient ces entreprises d'extraction en disant « il n'y a pas besoin de demander l'autorisation, on nous dit que c'est des terrains publics ». Alors Amnesty demande déjà à ce que les lois américaines soient refaites et que ces terrains, on leur donne une affiliation des droits des peuples autochtones puisqu'ils existent dessus, c'est des terrains qu'ils ont utilisés dans le passé et encore maintenant, et qu'on demande à ce moment qu'eux aussi aient une parole par rapport à ces extractions qui vont absolument tout chambouler. Alors là, c'est pareil. Vu ce qui se passe aux États-Unis, c'est quand même compliqué parce que le gouvernement actuel de Donald Trump accélère l'attribution des permis miniers tout en affaiblissant les contrôles et valide à la hâte des projets d'extraction au détriment de la protection de l'environnement et des droits humains. Il favorise les priorités politiques et industrielles plutôt que ce dont la société a réellement besoin. Alors que l'essor de l'extraction de lithium se poursuit, il est temps que le droit des peuples autochtones devienne une priorité, a déclaré Alicia Kambless, une chercheuse au sein de l'équipe responsabilité des entreprises en matière des droits humains à Amnesty. Donc on en est là, on est en train de dénoncer ce qui se passe. Les peuples autochtones voudraient qu'ils aient un droit à la parole. Le rapport d'Amnesty met tout à plat, y compris ces grandes multinationales d'extraction qui s'arrangent bien des lois américaines, alors que certaines, donc une en particulier qui vient du Canada, et le Canada, lui, il a des normes beaucoup plus strictes. Donc, on va dire, cette entreprise, si c'est strict chez toi dans ton pays au Canada, ça doit l'être, tu dois amener ces demandes-là aussi aux États-Unis. Et pour l'instant, ce n'est pas ce qu'ils font. Donc, Amnesty demande à ce que les choses soient rediscutées, que la loi change, et que aussi on puisse peut-être demander peut-être une responsabilité civile de ces entreprises-là par rapport à toutes les personnes qui ont des actions dans ces entreprises-là. C'est-à-dire on leur dire aussi, est-ce que vous avez envie d'avoir une entreprise qui vraiment spolie les gens et n'a aucun arrêt sur ce qui va se passer. Alors le lithium États-Unis, voilà, on a l'image, mais on va répondre lithium en France.
Oui.
Ah, ou lithium en Espagne. Voilà, oui. c'est une grosse problématique.
Oui. Il y a des projets d'ailleurs d'extraction de lithium, parce qu'on aurait découvert des gisements aussi en France. Donc voilà. Et puis, je vais faire un lien par rapport à notre actualité locale, on en reparlera à la fin. Ne quittez pas l'antenne avant 20h. C'est notre partenariat avec le Tangramme de la pièce Comment Nicole a tout pété de samedi soir, qui va parler de scandale par rapport à l'installation d'une mine d'extraction de lithium. Comme quoi. Donc voilà. Et c'est samedi soir au cadran. Voilà.
Et juste un tout petit point, parce que j'avais aussi surligné un autre petit chapitre. Là, on parle lithium, on parle États-Unis, on parle quelque chose qui est en train de se faire. Mais les personnes qui nous écoutent régulièrement, on peut parler aussi de la République démocratique du Congo.
Oui, oui.
Avec ces problèmes d'extraction des métaux rares et choses comme ça. Voir les Philippines. Voir les Philippines aussi. Donc c'est vraiment une problématique mondiale avec des gens qui essayent de nous faire croire qu'il faut absolument tout prendre de la terre et tout pour des moyens, on va dire, l'intelligence artificielle. Et peut-être que là aussi, on pourrait réfléchir et donner notre avis.
Ben, c'est lié à la notion de développement sans fin dans un monde fini. Ça ne marche pas, arriver à certains stades. Voilà. Donc, je crois qu'on allait changer complètement de sujet et de problématique, mais c'est lié à l'actualité locale. Amnesty a publié son rapport sur la peine de mort. C'est Clarisse qui va vous en parler.
Bah oui, histoire de vous refroidir un peu. Hein. Là, je vais vous parler de la peine de mort. Bon, c'est... Alors, en fait, en 1981, une nouvelle victoire pour la dignité humaine avait lieu sur le long chemin de l'abolition universelle, puisque la France abolissait enfin la peine de mort. Aujourd'hui, 113 pays ont aboli la peine de mort pour tous les crimes. Mais le combat continue pour l'abolition universelle de la peine de mort. Depuis 1979, Amnesty International dresse le bilan annuel de la peine de mort dans le monde. Et donc il y a le rapport sur la peine de mort en 2025 qui a été publié et que vous pouvez trouver sur le site d'Amnesty. 45 ans plus tôt, la peine de mort était encore une réalité en France. Et c'est donc en 1981 que le pays se détourne de cette peine d'un autre âge. Et chaque année, le 9 octobre, la journée mondiale pour l'abolition de la peine de mort, c'est l'occasion de célébrer cet acte historique, ce jour où la France mettait fin aux homicides volontaires et prémédités, aux assassinats étatiques. Depuis cette date, quels que soient les gouvernements, la France a toujours affirmé son opposition en toutes circonstances à la peine capitale. Aujourd'hui, l'abolition de la peine de mort a fait son chemin petit à petit, victoire après victoire, pays après pays. Le 8 février 2024, Robert Badinter est mort, mais son combat reste bien vivant. Alors, un combat ininterrompue. Donc en 1977, nous lancions notre combat en organisant une conférence qui s'est conclue par l'adoption de la Déclaration de Stockholm, texte fondateur pour l'abolition universelle de la peine de mort. À cette époque, seuls 16 pays avaient totalement aboli la peine de mort. Aujourd'hui, grâce à notre mobilisation, 145 pays, soit plus des deux tiers des pays du monde entier, ont aboli la peine de mort en droit ou en pratique. Donc des progrès énormes et mesurables continuent d'être faits, même si un dernier tiers des pays reste à convaincre. En 1979, nous publions notre premier rapport statistique mondial sur la peine de mort. À partir de ce moment, nous devenons une référence mondiale en matière d'observation et de rédaction des rapports sur les condamnations à mort prononcées et les exécutions menées par les gouvernements dans le monde. Nous avons milité sans relâche sur des cas emblématiques qui ont clairement mis en évidence la nature injuste de la peine de mort. À l'instar de Troy Davis, un jeune Afro-Américain condamné à mort dans l'État de Géorgie et exécuté en 2011. Son histoire a remis en avant la nécessité de lutter contre l'application arbitraire de la peine capitale aux États-Unis. Plus récemment, notre organisation a agi en faveur de Rocky Myers, la première personne noire à avoir été graciée aux États-Unis en 2025. Nous avons également soutenu le mouvement abolitionniste au niveau international. Nous avons été l'un des membres fondateurs de la Coalition mondiale contre la peine de mort en 2002 et aidé à la création d'un réseau asiatique de lutte contre la peine de mort en 2006. En 2007, nous remettons aux Nations Unies plus de 5 millions de signatures en faveur d'une suspension mondiale de toutes les exécutions. Un mois plus tard, l'ONU adoptera sa première résolution sur la suspension des exécutions. Donc cette dynamique positive vers l'abolition se poursuit aujourd'hui. En 2025, c'est le Vietnam qui a aboli la peine de mort pour 8 crimes et la Gambie a aboli la peine de mort sur les crimes de meurtre, de trahison et d'autres infractions contre l'État. Au Liban et au Nigeria, des projets de loi visant à l'abolition sont en cours d'examen devant les assemblées législatives. Mais alors que le monde se dirige progressivement vers l'abolition totale, nous ne devons pas baisser la garde. En 2025, plus de 2700 exécutions ont été recensées dans le monde, un bond de 78% en un an. Une petite poignée d'États, dont la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite ou encore les États-Unis, continuent à avoir recours au châtiment le plus cruel et inhumain qui existe. Et je vous invite à vous rappeler aussi qu'il n'y a pas longtemps, l'État d'Israël a pris aussi oui. une mesure rétablissant la peine de mort par rapport aux condamnés palestiniens.
Tout à fait. Voilà.
Et uniquement palestiniens, ce qui en plus est un crime d'apartheid en même temps, puisqu'il y a une inégalité entre les citoyens. Et donc parce que c'était le 31 mars 2026 que Israël a remis la peine de mort ciblant les Palestiniens condamnés. Parce que la peine de mort est irréversible, l'abolition universelle doit l'être aussi. Nous combattons sans relâche jusqu'à la disparition totale de ce châtiment inhumain. Donc je vous invite à lire le rapport qui est sur le site, qui est en PDF et qui est un petit peu trop long pour que je puisse vous lire tout aujourd'hui parce que je vais me faire tirer les deux oreilles.
Mais non.
Voilà. On a dit qu'il y avait eu un bond de 78% d'exécution en 2025. C'est beaucoup lié à la situation en Iran, qui à lui seul, je crois que c'était 1300 exécutions à lui tout seul. Hein.
Tout à fait.
Et ça continue en Iran,
Oui, on aura l'occasion d'en reparler de l'Iran, je pense, dans nos toutes prochaines émissions, c'est clair. Ok, ben on va passer la première pause musicale et puis on se retrouve juste après. Je vais vous dire effectivement qui interprète cette pause musicale juste après.
C'est une devinette.
Il y a un lien avec notre actualité locale, là aussi.
Il est le visage d'une rare victoire contre la machine administrative.
Excusez-moi, c'était pas ça que je voulais enclencher. Je recommence.
Bah nous, on n'entend rien, on ne sait pas.